Le journal Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Une grande manifestation du personnel hospitalier est prévue cet après-midi à Paris, ainsi que des rassemblements partout en région. L'objectif reste toujours et encore le même, obtenir de la part du gouvernement un plan d'urgence pour sauver l'hôpital public.
Dans votre journal également, Thomas, les mauvais chiffres de l'emploi en France.
Oui, le taux de chômage a enregistré une très légère, mais non moins surprenante progression au troisième trimestre, et ce alors que les données récentes laissaient penser tout le contraire. La présidente de Radio France, Sybille Veil, a présenté ce matin les modalités de mise en œuvre de son projet 2022 qui comprend 299 suppressions de postes sur 3 ans. La coalition internationale anti-djihadiste se réunit aujourd'hui à Washington avec l'objectif d'empêcher, après l'intervention militaire turque, le retour de Daesh en Syrie. Enfin, l'invité politique de la rédaction dans le cadre de nos journées spéciales municipales aujourd'hui, Michel Bussy, écrivain, politologue, professeur de géographie à l'université de Rouen et spécialiste en géographie électorale. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
L'Amérique de James Ellroy, une ville, Los Angeles, et des hommes, ils sont journalistes, flics, hommes politiques ou encore prêtres. On va faire un passage en revue de toute cette galaxie Ellroy dans la seconde partie de la grande table. Romancier américain, auteur d'un nouveau polar chez Rivage, La tempête qui vient, est notre invité jusqu'à 13h30.
Merci et à tout à l'heure. Quand la colère le dispute au dégoût, parce que tous évoquent à la fois une déshumanisation et le sentiment d'une perte de sens de leur métier, autant qu'un profond épuisement dû à un manque permanent de personnel face à une demande de soins, elle toujours en constante augmentation. C'est tout l'hôpital public à bout de souffle qui a décidé donc de descendre dans la rue aujourd'hui pour réclamer un traitement de choc des médecins aux aides-soignantes, des doyens aux étudiants. L'appel à une grande manifestation lancée il y a un mois a fait le plein de soutien. Fait rare, même les syndicats qui peinent tant à s'accorder sur d'autres sujets nationaux s'y sont ralliés, de sorte que chacun table déjà sur une mobilisation historique ou à tout le moins d'une ampleur inédite depuis une dizaine d'années. Tara Schlegel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Port-Royal, d'où doit s'élancer le cortège. Où en est-on à cette heure, Tara, de la mobilisation ?
Eh bien, le cortège est encore un peu modeste, mais on est quand même à 1h30 de départ de la manifestation. Ici à Port-Royal, l'ambiance est bon enfant, mais elle est aussi sérieuse. Chacun se prépare. Le collectif Interhôpitaux, qui est né le 10 octobre dernier, peaufine par exemple son corbillard tout blanc avec une couronne mortuaire pour enterrer symboliquement l'hôpital. Hôpital de demain, hôpital sans humain, interroge, heureusement encore avec un point d'interrogation leur affiche. Ce collectif est représentatif de ce qui se passe en ce moment, un élargissement du mouvement qui est parti, on s'en souvient, des services d'urgence et singulièrement des violences subies par les personnels soignants de l'hôpital Saint-Antoine. C'était le 18 mars dernier. Aujourd'hui, 268 services d'urgence sont en grève dans toute la France et au-delà, ce sont donc d'autres personnels, des médecins, des internes, des administratifs, des psychologues, des psychiatres qui se joignent à la protestation. Accroupis à côté d'un banc, deux internes en médecine justement sont en train de découper des petits flyers. Elle est interne en neurologie, lui en pneumologie, et ils veulent tous les deux amener tout à l'heure les manifestants à s'allonger au moment où le cortège va approcher du Sénat. Le Sénat, où le Parlement examine en ce moment le projet de loi de financement de la Sécurité sociale. C'est un projet dont l'objectif national des dépenses de santé, l'ONDAM, qui n'est pas encore voté, hein, devrait a priori augmenter de 2,3% l'année prochaine. Agnès Buzyn, la ministre, a parlé peut-être d'une rallonge, mais rien n'est encore chiffré. En tout cas, 2,3%, c'est moitié moins que ce que recommande par exemple la Cour des comptes, pour que l'on puisse uniquement continuer à soigner les gens comme aujourd'hui. Voilà Thomas, le cortège donc s'étoffe un petit peu. Et pour ceux que j'ai pu croiser pour l'instant, des hospitaliers venus de province viennent donc de Lille, du nord de la France, de Bretagne et de Savoie. Mais ils seront certainement plus nombreux au fil des heures.
Merci Tara Schlegel en direct de Port-Royal ainsi qu'à Benjamin Chauvin pour les moyens techniques. Alors vous l'évoquiez, cette mobilisation est évidemment l'occasion de mettre la pression sur le gouvernement, lequel a promis de présenter un nouveau plan de soutien d'ici à la fin du mois. Reste que la ministre de la Santé a déjà échoué par deux fois à sortir de ce conflit, sans compter qu'en face, le ministère de l'économie lui veille au grain et a déjà fait savoir qu'une reprise, même partielle, de la dette colossale des hôpitaux publics n'est pas une option envisagée. Eux aussi sont appelés à la grève. Aujourd'hui, ils devraient être nombreux à battre le pavé dans la capitale contre le projet du gouvernement de réorganisation de leurs services. Ce sont les agents des finances publiques. Outre une baisse des effectifs, ce projet de restructuration prévoit la mise en place d'un nouveau réseau de proximité qui entend multiplier les points de contact dans les territoires ruraux et périurbains. Sauf que ce nouveau réseau est amené à remplacer les perceptions ou trésoreries et ne sera qu'un réseau périodique, dénoncent les syndicats qui parlent d'escroquerie. Deux jours après les violentes manifestations étudiantes déclenchées après qu'un jeune homme de 22 ans s'est immolé par le feu en interpellant les pouvoirs publics sur la précarité, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, recevra aujourd'hui et demain associations et organisations dans l'espoir de prévenir un enlisement de la situation. Hier encore, l'université Lyon 2, où le drame s'est produit vendredi dernier, a été de nouveau fermée après des blocages menés par des étudiants. Quoi qu'il en soit, c'est donc dans un climat social, on le voit de plus en plus tendu, que le gouvernement s'efforce, lui, de jouer l'apaisement. C'est ainsi, par exemple, que le Premier ministre Édouard Philippe se montrera aujourd'hui aux côtés de Muriel Pénicaud dans les Alpes de Haute-Provence, guidé par le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, puis de Jean-Paul Delevoye dans la soirée à Pau, manière de projeter une image d'unité, en particulier après les différents accros et autres notes dissonantes au sein de l'exécutif. Quant à Emmanuel Macron, il a, lui, choisi de répondre par du concret en même temps que du local. Le président se rendra aujourd'hui dans la Marne pour y évaluer les indicateurs de l'action de l'État. L'occasion donc de montrer sa proximité avec les préoccupations des Français et à trois jours, qui plus est, de l'an 1 de la révolte des Gilets jaunes. Enfin, c'est encore dans ce contexte de résurgence donc des tensions sociales que l'on a appris ce matin que le taux de chômage au troisième trimestre était en légère hausse de 0,1 point à 8,6%. Marie Vino, bonjour.
Bonjour.
Alors, ces derniers temps, la petite musique semblait pourtant plutôt rassurante au point de laisser penser que la baisse du chômage était même désormais solidement ancrée. Faut-il en déduire, Marie, que les chiffres de ce matin ne reflètent pas la tendance actuelle ?
C'est l'analyse de la ministre du Travail ce matin sur Europe 1. Muriel Pénicaud juge que cette augmentation du chômage, selon l'INSEE, ne remet pas en cause la tendance à la baisse et que ce sont les perspectives à long terme qui comptent. Du deuxième au troisième trimestre, il y a effectivement une hausse du taux de chômage selon l'INSEE, mais sur un an, nous dit cette même étude, le taux de chômage a baissé de 0,5 points. Il y a donc bien une baisse tendancielle du chômage dans notre pays. Là où les chiffres de la DARES, c'est-à-dire du ministère du Travail, et ceux de l'INSEE ne coïncide pas, c'est donc sur ce troisième trimestre. 12 000 demandeurs d'emploi en moins selon la DARES, 10 000 en plus selon l'INSEE. Là où il coïncide encore moins, et cette fois l'écart est dans l'autre sens, c'est sur le nombre total de demandeurs d'emploi, 2 500 000 chômeurs selon l'INSEE et là 3 300 000 selon la DARES. L'ampleur de cet écart montre à quel point la différence de méthode entre la DARES et l'INSEE est déterminante. Les 10 000 en plus ou en moins sont d'ailleurs peut-être, avance le responsable de l'INSEE, un aléa statistique. Les autres résultats de cette enquête INSEE vont donc aussi d'ailleurs dans le sens d'une baisse du chômage pour les chômeurs de longue durée et pour les jeunes. En revanche, ce qu'on nomme le halo du chômage, c'est-à-dire le sous-emploi ou le travail occasionnel, est en augmentation depuis deux trimestres. Il y a 1 600 000 personnes dans ce cas. Or, ce sont ces personnes qui vont être parmi les plus affectées par la toute nouvelle réforme de l'assurance chômage.
Merci Marie Vino. 236 départs volontaires d'ici 2022. Voilà ce que la présidente de Radio France, Sybille Veil, a annoncé ce matin aux représentants des salariés dans le cadre du projet de transformation de l'entreprise de services publics. Maxime Tellier, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Alors l'argument de la direction reste invariablement le même. En clair, il n'y aurait pas d'autre alternative possible aujourd'hui face au double défi que constitue à la fois la révolution numérique et puis les réductions budgétaires.
Oui, faire plus avec moins de moyens, ce n'est pas possible. Donc il faut s'adapter et se réorganiser, a déclaré Sybille Veil ce matin en comité social et économique face aux syndicats. Alors il y a d'abord ce contexte financier très contraint. L'État demande 60 millions d'euros d'économies à Radio France d'ici 3 ans, d'ici 2022. Pour rentrer dans les clous budgétaires, il faut donc supprimer des postes. 236 seront ouverts au départ volontaire d'ici 3 ans. Mais ce sont en fait 299 postes que la direction veut supprimer, en comptant ceux actuellement non pourvus, qui sont donc plus faciles à supprimer, même si parfois ils peuvent être occupés par des CDD. Tous les départs seront volontaires, non contraints et progressifs, étalés sur 3 ans, précise la direction, qui dans le même temps a prévu d'embaucher. 76 postes seront créés, 50 pour le numérique et 26 profils nouveaux rendus nécessaires par les nouvelles organisations.
Alors ce plan, Maxime, est assez différent en réalité de ceux qui avaient été évoqués avant l'été, même si les syndicats, en l'occurrence, y sont toujours autant opposés.
Oui, effectivement, hein, malgré un changement notable, avant l'été, la direction expliquait que des postes pourraient être sauvés si les salariés renonçaient à des jours de congé. Les syndicats avaient dénoncé un chantage et cette mesure était absente des discussions ce matin. Mais les syndicats sont toujours quand même très critiques. Le SNJ, Syndicat National des Journalistes, dénonce un plan insoutenable. Tous les métiers sont visés par le plan de départ, au bon vouloir de la direction. Un projet qui vise à réduire la voilure sur la radio, pas question, en privilégiant la vidéo, le web, les podcasts. Le syndicat dénonce même un affaiblissement organisé de Radio France avant un mariage forcé avec France Télévisions. C'est le projet du gouvernement qui veut créer une holding. Désormais, c'est la bataille de communication et de mobilisation qui commence. Assemblée générale des salariés qui débute dans un quart d'heure. La PDG Sybille Veil rencontrera le personnel demain matin.
Merci Maxime Tellier. Un fragile accord de cessez-le-feu sous médiation de l'Égypte est entré en vigueur ce matin dans la bande de Gaza après deux jours de combats entre les forces israéliennes et le djihad islamique. Combats qui ont fait 34 morts et 111 blessés dans l'enclave palestinienne. Juste avant la proclamation de cette trêve, 8 membres d'une même famille, dont 3 enfants et 2 femmes, avaient encore été tués dans une frappe israélienne. Toute la question désormais est de savoir si la proclamation de ce cessez-le-feu laisse entrevoir ou non une issue au pire regain de violence survenu en plusieurs mois. Et puis ce conflit israélo-palestinien a trouvé également à résonner cette semaine jusque dans les couloirs de la Cour de justice européenne. Mardi, celle-ci a en effet validé l'étiquetage des denrées alimentaires originaires de territoires occupés par l'État hébreu. En clair, tous ces produits devront à présent être marqués comme provenant de colonies israéliennes. Frédéric Mettezo, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondant à Jérusalem. Alors ce jugement de la Cour réitère en réalité les positions de l'Union européenne qui, conformément au droit international, distingue donc Israël de ses colonies et, comme attendu Frédéric, eh bien l'État hébreu a aussitôt dénoncé une décision qui pourrait nuire à la fois à ses exportations mais aussi et surtout à son image.
Oui, le ministre israélien des Transports, un colon religieux, estime que les juges de Luxembourg encouragent ceux qui viennent de tirer des roquettes sur Israël. Le ministère des Affaires étrangères, lui, se demande pourquoi seul Israël est concerné et pas les produits venant de Chypre Nord, du Sahara occidental ou du Nagorno-Karabakh, autant de territoires disputés de par le monde. Israël demande à ses diplomates en poste dans l'Union européenne de se mobiliser. Tout avait commencé dans une exploitation viticole de Psagot, dans une colonie près de Ramallah. Elle avait saisi la justice européenne après une décision française de 2016 stipulant qu'il fallait étiqueter son vin comme produit dans une colonie israélienne. Et selon nos informations, le gouvernement israélien l'avait dissuadé de faire appel, convaincu qu'il allait perdre. Et c'est ce qui s'est passé, mais aujourd'hui le viticulteur se réjouit de la réaction du département d'État américain qui dénonce un parti pris anti-israélien. À l'inverse, l'OLP au pouvoir en Cisjordanie se réjouit, elle demande une application immédiate de la mesure et même l'interdiction d'importer des produits des colonies dans l'Union européenne. Mais depuis plusieurs années, Thomas, les entreprises des colonies mettent en garde les Palestiniens, elles rappellent qu'une partie de leurs salariés sont des Arabes et que la mesure risque de se retourner contre eux, sans compter le flou des denrées agricoles cultivées dans les colonies mais transformées en Israël. Comment les labelliser? Mais ça reste tout de même un vrai point de crispation ici. Les autorités israéliennes sont toujours très irritées par ce qui ressemble à un boycott.
Merci Frédéric Mettezo en direct de Jérusalem. Trop longtemps, les États européens en particulier ont laissé aux milices kurdes le soin de s'occuper des combattants du djihad. Or maintenant que ces combattants ont été faits prisonniers par la Turquie dans le cadre de sa récente offensive militaire et qu'Ankara a décidé qui plus est de les renvoyer dans leur pays d'origine, eh bien nombreux sont ceux qui se retrouvent pris de court alors même qu'ils ne souhaitent pas juger ceux qui les ont trahis et parfois attaqués après avoir grandi sur leur sol. Toujours est-il que c'est dans ce contexte donc que la coalition internationale anti-djihadiste doit se réunir aujourd'hui à Washington. Une réunion voulue par la France officiellement pour empêcher le retour de Daesh sur le terrain en Syrie après l'intervention militaire turque. Les précisions d'Omar Waman.
C'est une réunion qui sera conduite par les États-Unis mais voulue par la France après l'annonce il y a un mois du retrait américain du nord-est de la Syrie. Paris est conscient qu'une page est en train de se tourner dans cette région où la Turquie est intervenue pour chasser de la frontière les forces kurdes considérées comme terroristes par Ankara. Mais Cette offensive militaire a surtout mis en lumière l'incapacité à long terme du maintien en détention par les Kurdes de milliers de terroristes. Des émeutes ont éclaté dans certaines prisons de fortune et des femmes de djihadistes ont même profité du chaos pour prendre la fuite. Ce sujet sera au cœur des discussions. L'objectif, empêcher une résurgence du groupe État islamique, défait sur le plan territorial, mais qui dispose de nombreuses cellules dormantes. Et pour cela, les ministres de la coalition internationale anti-djihadiste vont tenter de s'accorder sur les mesures à prendre pour accroître leur effort militaire dans la région. Mais l'équation géopolitique est complexe et les acteurs nombreux, depuis le retour à la demande des Kurdes du régime de Bachar el-Assad, soutenu par son allié indéfectible, la Russie, dont les blindés patrouillent désormais dans le nord-est de la Syrie.
En Australie, même si les feux qui ravagent actuellement le pays sont de saison, c'est peu de dire qu'ils auront surpris cette année par leur précocité, mais aussi leur intensité et surtout leur ampleur. Le dernier bilan fait état de 4 morts et pour beaucoup d'habitants, eh bien, ils sont aujourd'hui la matérialisation chez eux d'un péril qui n'est plus simplement théorique, le réchauffement climatique, au point qu'ils sont de plus en plus nombreux à présent à critiquer le gouvernement conservateur, ardent défenseur de l'industrie minière, et qui ne manque généralement pas une occasion d'opposer une fin de non-recevoir à tous ceux qui lui demande d'en faire davantage pour le climat. Des dégâts irréversibles et des coûts déjà estimés à près d'1 milliard d'euros à Venise. Le retrait progressif de l'eau hier après une crue exceptionnelle a révélé une ville meurtrie. Le gouvernement a aussitôt décrété l'état d'urgence pour catastrophe naturelle dans le but de mobiliser rapidement des fonds afin d'éviter à plus long terme une possible disparition de l'une des plus belles villes du monde. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs certains habitants de redouter désormais que jamais une solution ne soit trouvé. Et pourtant le projet Moïse avait bel et bien été imaginé il y a 50 ans déjà, prévoyant la construction de 78 digues flottantes autour de la ville. Il a d'ailleurs débuté en 2003. Sauf qu'entre problèmes techniques et corruption, eh bien, il n'est toujours pas terminé. C'est un reportage de notre envoyé spécial Bruce de Galzin.
Les sirènes ont encore retenti cette nuit, mais l'eau n'a pas envahi Venise, qui pour se protéger compte depuis des années sur le projet Moïse, du nom du prophète, qui veut dire sauver des eaux. Lancé il y a 15 ans, il n'est pas terminé. Le maire de Venise, Luigi Brugnaro, veut accélérer.
Finissons-en avec ces choses que nous entendons dire depuis des années. Il y a tant de gens qui sont montés sur des podiums, qui ont organisé des congrès.
C'est un projet fantôme, dénonce le maire, qui devait coûter 2 milliards et qui en a pour l'instant coûté 7, à cause notamment de la corruption et du blanchiment d'argent de responsables politiques locaux. Vincenzo a une galerie d'art contemporain. Il vit à Venise depuis 27 ans et ne croit absolument pas au projet Moïse.
Les derniers travaux pharaoniques et inutiles comme ceux du projet Moïse, ça ne fonctionnera jamais. Pour le faire fonctionner, ça coûterait plus cher que pour le réaliser. Vraiment, tout ça n'a fait que détériorer la situation.
Et détériorer la lagune. Pour Sarah, qui étudie à l'université de Venise, les politiques ne prennent pas la mesure du changement climatique.
Heureusement, les jeunes de notre âge commencent à s'en occuper vraiment, mais ce sont les adultes et surtout les politiques qui devraient réellement commencer à prendre les choses au sérieux.
Et Giuseppe Conte, le président du Conseil, a promis hier soir à Venise que le projet serait terminé rapidement.
Comme chaque jeudi à présent, dans le cadre de nos journées spéciales municipales, invité politique de la rédaction en direct et en duplex depuis chez nos confrères de France Bleu Normandie, Michel Bussy, écrivain, politologue, mais aussi professeur de géographie à l'université de Rouen, spécialiste en géographie électorale. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et à mes côtés pour vous interroger, Anne Fauquemberg. Bonjour Anne.
Bonjour.
Une première question monsieur Bussy, quand on parle de Rouen aujourd'hui, on pense immédiatement et immanquablement à l'incendie de l'usine Lubrizol. Est-ce que d'une manière ou d'une autre, cette catastrophe peut avoir un impact sur les prochaines municipales ?
Oui, évidemment, elle peut avoir un impact. La première, c'est évidemment la question de la montée ou non des votes écologistes. Et puis, plus globalement, ça pose la question de deux types de villes. Une ville qui serait durable, qui serait verte, qui serait plutôt le centre-ville. Et puis, une ville plus industrielle, plus productive, plus ouvrière, qui correspond plutôt aux autres communes de Rouen, notamment sur sa rive gauche.
Michel Bussy, votre dernier livre étant un thriller ésotérique autour de l'Arche de Noé, on avait un peu oublié votre casquette d'analyste politique. Pour autant, vous connaissez bien, hein, vous venez de le dire, cette ville de Rouen. Au-delà de Lubrizol, quelles sont ses autres difficultés ?
Rouen, c'est une métropole importante, hein. Elle compte à peu près 500-600 000 habitants, donc elle est dans les 10 premières métropoles de France, et elle souffre surtout d'un déficit de notoriété, c'est-à-dire que on la connaît assez peu en France, et elle souffre aussi d'un déficit économique, c'est-à-dire qu'il y a peu de gens qui viennent s'installer, ou trop peu de gens qui viennent s'installer, et puis elle a du mal un petit peu à assurer sa transition économique, pour faire simple, de l'activité portuaire et industrielle vers les activités de services, et notamment de services de haut niveau, notamment des sièges sociaux d'entreprise.
Alors, 6 candidats sont déclarés pour les municipales de mars prochain, ville dirigée depuis 2008 par les socialistes, la métropole étant le fief des Fabiusiens. Dans le contexte de la recomposition politique, tout est ouvert cette fois-ci ?
Oui, c'est ce qui est extraordinaire dans cette élection, c'est que personne ne peut prédire ce qui va se passer. On a en gros 4 ou 5 candidats qui peuvent l'emporter. Il faut rappeler que les municipales, pour être qualifiées au second tour, il suffit de faire 10% des exprimés. Donc 10%, c'est pas grand-chose. On peut penser qu'il y a au moins 5 listes qui devraient pouvoir se qualifier pour le second tour. Donc La République En Marche, Les Républicains, la liste citoyenne et socialiste, et les Verts et le Front Républicain.
Il y a un nouvel acteur dans cette élection. C'est l'entrepreneur Jean-Louis Louvel, soutenu par La République En Marche. Son implication dans l'économie locale, notamment, il est actionnaire majoritaire du journal Paris Normandie, président du club de rugby de Rouen. Ces activités-là, elles sont compatibles avec une entrée en politique ?
Alors ça fait beaucoup de polémiques évidemment localement, puisque d'un côté Jean-Louis Louvel, qui est bien connu des Rouennais, a obtenu l'investiture de La République En Marche alors qu'il n'était pas encarté politiquement auparavant, il y a encore quelques mois, et évidemment le fait qu'il soit à la fois le patron du grand quotidien local et candidat à la municipale, ça rappelle notamment le groupe Persan, qui était aussi présent sur Rouen auparavant, donc ça rappelle plutôt une ancienne façon de faire de la politique qui va être dénoncée évidemment par rapport à la posture de La République En Marche. Et c'est un peu la difficulté de La République En Marche, c'est-à-dire qu'ils vont adouber des candidats nouveaux qui vont venir d'horizons très différents. Et évidemment, quand ce sont par exemple des grands chefs d'entreprise locaux, il y aura sans doute cette polémique. Après, on ne sait pas encore ce que fera effectivement Jean-Louis Louvel dans les mois qui viennent. Peut-être qu'il va évidemment déclarer qu'il s'éloigne un petit peu de ce journal, mais les soupçons seront évidemment toujours là.
Vous pensez qu'il y a encore des possibilités de ralliement ? Je pense à la Benjamine de cette campagne, Marine Caron, qui est une centriste et qui se présente pour le moment sans étiquette.
Oui, c'est vraisemblable, parce qu'il faut pas oublier qu'on est quand même dans une région très particulière pour La République En Marche. On est dans la région dont sont originaires évidemment Édouard Philippe, mais aussi Bruno Le Maire. Donc les liens entre La République En Marche et la droite sont toujours très forts dans la région. Et un grand nombre d'élus sont très partagés entre la fidélité à leur chef de file, qui était Édouard Philippe et donc Bruno Le Maire, et la fidélité aux Républicains. Donc tout ça va être un jeu extrêmement compliqué dans la composition des listes. Alors Jean-Louis Louvel, lui, n'était pas encarté républicain, mais c'est vrai que dans la région, La République En Marche est quand même très très proche des Républicains.
Quoi qu'il en soit, cette élection, elle peut marquer, selon vous, la fin de ce qu'on appelle la Fabiusie ?
Oui, c'est l'enjeu majeur, c'est-à-dire que depuis à peu près 1989, depuis 30 ans, les socialistes ont absolument tout gagné dans la région, les départements et presque toutes les grandes villes. Ils ont presque tout perdu, sauf les grandes villes, sauf la métropole de Rouen. Et donc l'enjeu, ça sera, est-ce qu'ils sont capables de garder la métropole ? Alors, il faut bien voir que même si les socialistes perdaient la mairie de Rouen, ils pourraient quand même garder la métropole, hein, puisque la mairie de Rouen, la commune, ne fait qu'à peu près un quart de la population de la métropole. Donc, il ne joue pas la domination sur la métropole uniquement dans le centre-ville.
Alors l'inconnu de cette élection, ça sera surtout le poids du vote écologiste dans cette ville à la culture qui reste très industrielle.
Oui, alors ce qu'il faut voir, c'est que la commune centre de Rouen, elle ne compte pas vraiment de sites Céveso, et la commune centre de Rouen, elle est comme toutes les grandes autres communes centres de France, c'est-à-dire qu'elle s'est tournée vers le tram, vers une rénovation des quais de Rouen, donc vers une commune verte et durable avec ses fameux écoquartiers. Donc tout ça favorise plutôt un vote écologiste. D'ailleurs, aux dernières élections municipales, Jean-Michel Bérégovoy, leader écologiste, avait fait plus de 10% des voix. Donc on sait que les écologistes feront un score important dans la commune de Rouen. Après, ils seront en capacité sans doute d'être au second tour. Après, est-ce qu'ils seront en tête à gauche ? Est-ce qu'il y aura des désistements ? Enfin, on peut tout imaginer, y compris évidemment une victoire des écologistes à Rouen. Ce qui serait très paradoxal, parce qu'évidemment, le reste de l'agglomération de Rouen est très marqué par des communes encore très ouvrières, très industrielles. D'ailleurs, il y a encore beaucoup de communes
gérées par des municipalités communistes dans l'agglomération de Rouen. Et vraisemblablement, elles vont le rester. On pense notamment à Saint-Étienne-du-Rouvray, qui est une grosse commune de 30 000 habitants. Donc tout ça donne des équilibres extrêmement difficiles, puisqu'à Rouen, il faut se rappeler qu'effectivement, cette question écologique à Rouen, elle est très aiguë et souvent très très tendue entre classiquement les écologistes et aussi bien la droite, mais surtout la gauche, qui a défendu très longtemps cet héritage industriel, qui d'ailleurs est essentiel pour l'emploi local, mais évidemment qui a plutôt fait l'objet d'une sorte de déni, c'est-à-dire qu'on prenait à la fois l'industrie et à la fois la ville verte, ce qui fait évidemment une sorte de schizophrénie permanente pour les élus.
Et on terminera par ces mots. Merci Michel Bussy, écrivain, politologue, professeur de géographie à l'Université de Rouen, d'avoir répondu à notre invitation en direct et en duplex depuis chez nos confrères de France Bleu Normandie. Merci également à Anne Fauquemberg. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi, fortement pluvieux sur l'ensemble du pays. Tout juste quelques éclaircies parviendront-elles à se développer sur les pays de Loire et jusqu'aux Hauts-de-France. Des chutes de neige sont par ailleurs à prévoir en basse altitude. 3 départements ont même été placés en vigilance orange, neige, verglas, la Drôme, l'Isère et l'Ain. Quant aux températures, elles afficheront entre 5 et 17 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet. À 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.